Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les salons MOLA. Nous recevons aujourd'hui, enfin les salons MOLA, la librairie MOLA reçoit ce soir une personne qui n'est pas besoin de présenter, qui est donc Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, entre autres. Je pense qu'il n'est pas besoin d'en dire plus. Vous l'avez lu, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Les salons MOLA m'ont demandé, car je suis professeur à l'Université de Bordeaux et un peu historien, d'animer cette rencontre, une rencontre qui va vous donner très largement la parole et qui lui donnera bien sûr beaucoup l'occasion d'évoquer ce livre. Alors la date de la venue de Laurent Geoffrin à Bordeaux est un peu peut-être le produit du hasard, mais elle s'insère dans une chronologie tout à fait résistante, puisqu'il ne vous a peut-être pas échappé qu'au début de la semaine, avant-hier je crois, le président de la République a participé à l'hommage qui était fait au Conseil national de la Résistance, une rencontre très importante qui a donc eu lieu le 27 mai 1943, c'était donc le 70e anniversaire. Et lors de cette réunion du Conseil national de la Résistance, Jean Moulin étant présent avec les grands chefs des mouvements de la Résistance, eh bien, les bases politiques d'une union de la Résistance avaient été jetées au cours de cette rencontre tout à fait importante. Et donc nous sommes 70 ans plus tard pour évoquer cet ouvrage qui s'intitule sobrement « Les Résistants, témoignages 1940-1945 ». C'est en fait une anthologie. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de feuilleter l'ouvrage et vous en ferez peut-être l'acquisition et vous le lirez certainement. C'est un gros ouvrage de 800 pages articulé dans des chapitres qui sont des chapitres thématiques. On reviendra peut-être sur la construction de cet ouvrage et ont été sélectionnés par l'invité de ce soir une quinzaine d'auteurs, je crois qu'il y a 16 auteurs différents, hein, 16 ou 17 auteurs différents qui sont d'anciens résistants et qui avaient livré leur témoignage après la Deuxième Guerre mondiale. Un bref mot sur cet ouvrage avant de commencer le débat et les échanges. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une grande diversité de témoins de la Résistance qui ont été représentés. Certes, la Résistance intérieure, celle qui s'est forgée, on y reviendra peut-être à partir de 1940-41 en France, est très largement représentée. La Résistance de Londres est un petit peu moins représentée. On verra si c'est le produit du hasard ou si c'est un choix de l'auteur de l'anthologie. Vous avez également une grande diversité des situations politiques et sociales. La Résistance communiste est représentée, la Résistance démocrate chrétienne, la Résistance socialiste, enfin, toutes les nuances syndicalistes, toutes les nuances de la Résistance française, toutes ces nuances sont représentées. Donc c'est très œcuménique, pour employer un mot qui n'est peut-être pas tout à fait adapté. Ce qui est intéressant aussi dans cette anthologie, ce qui est assez inhabituel, c'est qu'on a les héros, les grandes figures, la plus connue aujourd'hui parce qu'il a une actualité télévisuelle assez surprenante, c'est Daniel Cordier, qui est d'ailleurs un Bordelais, qui est de famille bordelaise. Mais vous avez aussi, aux côtés de cet homme qui était à l'époque dans une situation très, très, très modeste, puisqu'il était le secrétaire de Jean Moulin, mais il est devenu ensuite, il est aujourd'hui considéré comme un grand personnage de la Résistance. Vous avez des responsables de mouvement, comme Henri Freinet, par exemple, Christian Pinault, si je ne m'abuse, mais aussi des gens beaucoup plus modestes, des soutiers, comme Jacques Bureau, comme Madame Reinsky, qui sont un peu des inconnus de la Résistance et qui, pour autant, ont joué un rôle tout à fait important dans cette Résistance. Donc, vous voyez, une quinzaine d'auteurs, une grande pluralité. Un petit constat qui est une fausse surprise, il n'y a qu'une seule femme, et ce sera peut-être l'occasion d'évoquer le rôle des femmes dans la Résistance. De fait, il y avait peu de femmes qui étaient à la tête de réseaux ou de mouvements, donc ceci s'explique très simplement. Alors, je voudrais tout d'abord commencer à cet échange que vous allez avoir avec l'invité de ce soir, en lui demandant pourquoi ce livre aujourd'hui, il m'est apparu qu'il s'est intéressé aux questions relatives à la guerre, aux questions relatives à la cryptographie, à la Deuxième Guerre mondiale il y a quelque temps. Alors pourquoi ce choix de la Résistance et ce choix d'en faire une anthologie ?
Alors, il y a deux raisons à cela. La première, c'est parce que les leçons de caractère qui sont données par ces témoins sont absolument formidables. Elles sont valables à toutes les époques et donc à la nôtre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont décidé de dire non. Et c'est une qualité assez rare dans la vie. Et donc, ils sont tous des exemples formidables. Parce qu'ils ont dit non, alors qu'ils étaient totalement isolés, même désavoués par la société qui les entourait. En 40, tous n'ont pas commencé forcément en 40, mais enfin beaucoup. Et en 40, la masse de la population française a été assommée par la défaite, d'une part, et puis la gloire du maréchal Pétain a fait que toutes les élites, pratiquement à quelques exceptions près, dont le général de Gaulle, général à titre provisoire, qui était sous-secrétaire d'État à la guerre, c'est le seul pratiquement qui soit... Enfin, il y a plusieurs hommes politiques qui sont partis, mais lui est le seul à avoir vraiment pris une position très visible. Tous les autres, évidemment, tous les juges, tous les professeurs d'université, je ne dis pas ça pour vous, mais... Enfin, toutes les élites, le patronat, le Conseil d'État, beaucoup d'hommes politiques, énormément d'hommes politiques, y compris à gauche, ont rallié le maréchal, ont accepté la défaite, ont accepté l'armistice et ont accepté le régime, les pleins pouvoirs, etc., la révolution nationale, tout ça a été largement accepté quand même. Et donc ces gens-là qui apportent leur témoignage sont des gens, il y en a un sur 1000, un sur 10 000 peut-être, je sais pas, il faudrait faire un calcul, mais ils sont quelques centaines, quoi, en 40. Après ça change, mais en 40, ils sont quelques centaines. Et donc c'est un exemple formidable pour tous ceux qui pensent qu'ils doivent défendre des valeurs qui leur tiennent à cœur, qui sont des valeurs pour lesquelles on est prêt à faire des sacrifices, y compris le sacrifice de sa vie. Donc ça, c'est la première raison. Il y a quand même eu une intention, même s'il n'est pas explicite au départ, mais de pédagogique, quoi, pour dire aux gens, voilà ce qu'ils ont fait. Et prenez exemple sur eux. Il y a une deuxième raison qui est politique, alors, pour le coup, pour ce qui me concerne, moi. Hein, c'est-à-dire que effectivement, il y a une caricature, parfois, qui fait des résistances. C'est des gens dont l'importance militaire était très marginale, dit-on, a-t-on dit à un certain moment, et qui passaient leur temps à faire de la politique. La politique pour préparer l'après. Parce qu'ils savaient que, de toute manière, ils avaient fait le pari que les Allemands seraient battus à la fin. Et donc, ils se disaient, bon, il faut que la France soit présente. Ça, c'était le pari du général de Gaulle. Et puis, il faut mettre en place les bases d'une société différente, puisque la France d'avant-guerre s'est effondrée en 3 semaines, pratiquement, militairement, mais moralement aussi, surtout à leurs yeux, puisqu'ils ont été les seuls à dire non au départ. Et donc, la France s'est moralement effondrée, militairement en même temps. Et donc, il faut jeter les bases d'une société radicalement nouvelle. Et donc, ils ont créé, effectivement, c'est l'anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, qui a ensuite produit un programme. Et ce programme a structuré la société française d'aujourd'hui. Et qu'il s'agisse de phénomènes sociaux, tout l'État-providence français a été bâti à ce moment-là, l'esprit de la législation du travail, la volonté de rétablir de manière pleine et entière la culture républicaine, la culture démocratique, d'avoir une nouvelle république, donc c'était la quatrième, qui a été décevante après, mais enfin bon, ils ont fait une république. Et puis le développement économique, le colbertisme à la française qui a été rétabli lui aussi dans ce qu'il avait d'efficace, parce que ça a donné ce programme-là à rééquilibrer la société française, du point de vue... Enfin ça, c'est, je parle de manière un peu orientée, hein, je ne masque pas mes préférences, mais à équilibrer la société française sur le plan social, avec des réformes sociales extrêmement importantes et profondes, elle a assuré la liberté. Et puis, elle a reconstruit le pays sur la base de ce programme, et avec ces hommes-là, tous ceux qui dirigent la République après la guerre, sont issus de la résistance. Alors, on a même dit résistentialisme, tous les gens qui n'avaient pas beaucoup participé à la résistance, ou au contraire, a fortiori qui avaient collaboré, considéraient qu'ils vivaient sous une espèce de domination excessive, quoi, des gens qui étaient issus de la résistance. Et ça a continué jusqu'à il y a très peu de temps. On ne pouvait pas faire une carrière nationale en France, sur le plan politique, mais également souvent dans la haute fonction publique, sans avoir été peu ou prou lié à la libération du pays. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi le président Mitterrand a été obligé de masquer une partie de son itinéraire, parce que c'était inavouable, alors même que c'était très honorable, finalement, quand on fait le compte sur l'ensemble de la guerre, mais c'était inavouable de dire « bon, j'étais à Vichy pendant un an et demi ». Et tout le monde devait avoir participé à la libération. Il y avait un mythe national, et puis il y avait une réalité, que c'était ces gens-là qui avaient sauvé l'honneur du pays et qui ont mis en place les bases intellectuelles, morales, économiques et sociales du relèvement du pays et d'une croissance qu'on n'a jamais connue depuis, qu'on n'avait jamais connue avant et qu'on n'a jamais connue depuis. Et donc, ils ont transformé totalement le pays et ils ont créé la France d'aujourd'hui, en bien et en mal, souvent en bien, en tout cas jusqu'à la crise pétrolière des années 70. Le programme du CNR a marché de manière formidable. Donc voilà les deux raisons. J'étais un peu long, mais... Et puis il y a une troisième raison, c'est le... Je peux terminer. C'est que je suis journaliste. Moi, et donc, vous savez, les historiens, ils se méfient un peu des témoins. Ils ont raison, d'ailleurs, parce que les témoins, ils oublient, ou ils déforment, ils ont des intérêts à défendre, ou une image d'eux-mêmes à projeter, ou bien, parfois même, ils ont des comptes à régler avec d'autres protagonistes. Et donc, il faut toujours en prendre et en laisser, quoi. Et les historiens font ce travail de manière très précise et très comme des bénédictins, quoi. Ils comparent les documents, ils comparent les témoignages, ils recherchent les dates, les faits exacts. Et puis, ils se fient beaucoup plus à ce qui est écrit qu'à ce qui est oral. Mais s'ils ne font que ça, tous ne font pas que ça, mais certains ne font que ça, il manque l'essentiel, je trouve. C'est-à-dire que le témoin, lui, c'est vrai qu'il n'est pas toujours fiable, c'est vrai qu'il défend quelque chose, mais c'est la vie. C'est-à-dire qu'il fait comprendre en faisant sentir, en faisant revivre ce qui s'est passé. Il donne les détails, il donne les sentiments que les gens ressentaient à l'époque, la peur, l'enthousiasme ou l'espoir, malgré les années noires, et puis la vie de tous les jours. Quoi. C'est-à-dire que ce qui est formidable dans les livres de Cordier, par exemple, c'est qu'on voit la vie au jour le jour, heure par heure, pratiquement, parce que c'était la vraie vie d'un résistant français. Et c'est très loin de la mythologie, évidemment. Ça reste héroïque, parce que c'est une chose... Ils risquaient leur vie à tout moment. En plus, le propre d'un combattant de l'ombre, comme on dit, c'est qu'il est seul. Hein, le soldat, lui, il est dans un bataillon, un régiment, un peloton, il a un officier, un sous-officier, etc. Les camarades, sous l'œil desquels il combat. Et s'il est blessé, on le secourt, enfin, il est secouru. Et puis, bon, s'il est tué, il n'est quand même pas solitaire. Tandis que celui qui était parachuté de Londres, ou bien qui adhérait à un mouvement ou à un réseau, a fortiori, parce que les réseaux font de l'action militaire, et les mouvements, eux, ils font de l'action de propagande et de la politique. Ces gens-là étaient traqués. Et donc, d'abord, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils vivaient dans des endroits miteux, le plus souvent. Ils n'avaient pas assez à manger parce qu'il y avait un rationnement et ils avaient du mal parfois à circuler. Ils passaient leur vie la nuit dans des trains inconfortables, dans des hôtels de quatrième catégorie. Et à chaque minute, ils pouvaient être arrêtés. C'est-à-dire qu'ils ouvraient une porte et derrière, il pouvait y avoir un policier de Vichy ou un type de la Gestapo. Ils étaient traqués en permanence. S'ils avaient une arme, si jamais on les fouillait, ils étaient arrêtés tout de suite. Et s'ils n'avaient pas d'arme, ils ne pouvaient pas se défendre. Ceux qui avaient des radios, c'était des postes très lourds, gros comme ça, ils devaient se promener avec ces valises. Si on leur demandait de les ouvrir, ils étaient morts. Et s'ils commençaient à émettre, ils avaient 25 minutes. Au bout de 25 minutes, les Allemands arrivaient, parce qu'ils avaient leurs appareils de détection. Et ils étaient assez efficaces. Et puis, non seulement ils étaient arrêtés, mais en plus, ils risquaient donc leur vie. Mais surtout, ils risquaient la torture. Ce que les soldats... Alors, les soldats peuvent être blessés, ça peut être épouvantable, évidemment, on le sait bien, mais la torture, c'est quand même très particulier. Il y a un moment où on souhaite mourir, quoi. Et donc, ces gens-là ont vécu pendant 4 ans cette vie-là. Et il y en a, je ne sais plus, un tiers, je crois, qui ont été pris, quand même. Ça fait beaucoup. Et donc, les témoins racontent ça. Ils font vivre les choses. Et c'est comme ça qu'on comprend l'histoire, à mon sens, mais je dis ça parce que je suis journaliste. Je ne suis pas universitaire, donc... Je n'ai pas la compétence académique. Mais par contre, je sens que donner ces témoignages, comme c'est dit dans le livre, ça permet aux gens de revivre au fond la période. Et c'est très important pour la comprendre.
Et alors, vous avez insisté sur... vous avez fait un bel éloge de la défense du témoin, de la mémoire. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites un peu aussi dès le début de la préface. Vous prenez un peu de distance avec l'histoire de la résistance, sans pour autant la juger. Et puis, vous avez dit aussi qu'il y avait une raison un peu politique dans ce livre. qui est le rôle que le programme de la, du CNR a eu lors de la reconstruction de la France en 1944-1945 et même un peu au-delà. Est-ce que vous pensez que un ouvrage de ce type, ou l'évocation aujourd'hui de ces témoins plus ou moins connus, peut être une force de mobilisation? Il y a quelques années, on a vu un personnage comme Stéphane Hessel aller mobiliser à nouveau, autour des idéaux du programme du CNR, essayer de mobiliser une certaine gauche. Mmh. Hein, c'était avant l'élection présidentielle de l'année dernière. Alors on ne sait bien sûr pas quel est l'écho de ce nouveau CNR, de cette volonté d'actualiser le programme du CNR de 43-44. Est-ce que votre œuvre, ce travail d'anthologie, vise un peu aussi à cela, ou est-ce que c'est une simple évocation de la mémoire, d'un souvenir politique ?
Non, non, il y a, enfin, je veux préciser, c'est pas moi qui ai réuni directement, moi j'ai fait la préface, et puis on m'a expliqué ce qui se passait, mais c'est pas moi qui ai fait le travail. Il se trouve que c'est ma sœur. Bon. Donc on a un travail de famille,
vous voyez. Personne relativement proche, non ?
Ma sœur Christelle qui a fait le travail, mais on a travaillé ensemble. Non, c'est pour préciser les choses, je veux pas usurper ma fonction, moi j'ai fait la préface essentiellement. Oui, il y a un message, quoi, dans cette affaire, c'est que il y a une idée de la France, quoi, pour être un peu solennel. Il y a une idée de la France qui n'est pas nationaliste, quoi, qui est patriote, évidemment. Moi, je suis plutôt patriote. Je ne suis pas du tout nationaliste. Alors, je suis très européen, je suis très cosmopolite, comme les gens de ma génération, comme les gens des années 60. Quoi. Mais dans le témoignage de tous ces gens-là, qui sont de tous horizons, il y a des gens extrêmes droites, sur les passifs, vous prenez... alors, Bénouville n'a pas de témoignage, mais il est cité, parce qu'il est un protagoniste. Passy, Bénouville et Cordier. Cordier, il était Action française, il était maurassien. Et il part à Londres, enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film, il part à Londres en se disant, mais Maurras, je vais trouver Maurras. Il est très surpris que Maurras ne vienne pas, et que finalement, et à lui, à la fin de la guerre, Cordier fait partie des gens, des vainqueurs, et Maurras, lui, il va en prison. En disant, c'est la revanche de Dreyfus. Donc... mais ces gens-là, ça donne une idée du pays, quoi. C'est-à-dire d'un pays qui est abattu. Ça évoque un peu ce qui se passe aujourd'hui sur le plan social et économique. Il y a une vision assez noire de la France aujourd'hui, qui est d'ailleurs colportée largement par les élites françaises, qui disent toujours « la France, ça vaut rien, regardez l'Allemagne, c'est beaucoup mieux, regardez déjà. » Ou regardez les États-Unis, regardez je sais pas quoi, l'Australie, enfin, c'est toujours mieux, quoi. Et la France, c'est nul. Et ces gens-là... ont été confrontés à ça de manière tragique, dramatique. La France s'est effondrée, là, carrément. Et ils ont dit, ben non, pardon, elle peut se redresser. Parce que là, les historiens ont fait leur travail. C'est-à-dire qu'il y a deux légendes sur la résistance. Il y a une légende noire et une légende dorée, en quelque sorte. On a commencé par la légende dorée, qui a été à dessein, pour des raisons de politique fondamentale, le général de Gaulle, les gaullistes et les résistants, beaucoup, ont participé à ça. On dit, bon, ben, il faut... entretenir le mythe d'un pays qui s'est battu. Puisqu'il est à la table des vainqueurs, au fond, le pays s'est battu. Et donc, on a discrètement oublié les statistiques. On a dit, bon, dès 40, les gens se sont révoltés, etc. Un peu au début, puis beaucoup après. Et le maréchal était en fait un vieillard kakoshim auquel personne ne prêtait attention, etc. Il y avait une légende de la résistance. Donc les historiens ont démontré que c'était pas vrai. Alors, il y a eu une rupture avec Paxton dans les années, début des années 60, et puis ensuite il y a eu ce film formidable que je vous encourage à revoir si vous ne l'avez pas fait, qui s'appelle Le Chagrin et la Pitié, qui est absolument formidable, parce qu'il donne une vision très équilibrée de ce qu'a été la collaboration et la résistance, qu'ont été la collaboration et la résistance. Et donc avec Paxton, avec Le Chagrin et la Pitié, on s'est aperçu qu'effectivement la France résistante, c'était un peu la France combattante. Il y avait trois pelés, quatre tendus, quoi. Enfin, bon, en tout cas au début. Et puis les foules impressionnantes, quoi, qui accueillaient le maréchal à tous ses voyages, le ralliement de gens qui n'étaient pas du tout l'extrême droite, mais qui se sont ralliés à Vichy, tout ça est sorti, quoi. Et le fait que ce soit le régime du maréchal qui ait lui-même produit les lois antisémites, qui à l'époque n'a pas été vu, enfin, on mettait ça de côté parce qu'on ne voulait pas... bon, d'abord, il y avait les antisémites qui ne voulaient pas parler de ça. Et deuxièmement, il y avait les autres qui disaient, bon, les juifs sont comme les autres, donc on ne va pas parler de ça spécialement. Tout le monde a été martyr de la guerre, et donc il n'y a pas de sort spécial fait dans la mémoire à telle ou telle catégorie, y compris les juifs, ce qui était évidemment une erreur historique tragique, parce que l'ennemi, lui, enfin, les Allemands, eux, ils avaient fait un cas spécial. avec les juifs français, enfin étrangers d'abord et français ensuite. Et donc, voilà, on s'est aperçu que la collaboration avait des assises politiques, morales et populaires très fortes. Et donc s'est installée l'idée que les Français étaient vraiment une catastrophe, quoi. Il y a eu une espèce de haine de soi qui s'est installée dans les années 60-70 dans une partie de l'opinion, notamment les gens de ma génération qui ont découvert finalement que tout ce qu'on leur avait raconté à l'ombre du général était arrangé, c'était édulcoré, arrangé, etc. Et donc on est tombé dans l'extrême inverse sur le thème, bon, ils étaient tous maréchalistes, tous collabos, c'est horrible, etc. Ils ont persécuté les Juifs, ils ont collaboré avec les Allemands, et c'est les Américains qui nous ont libérés, heureusement, parce que si on avait compté sur les Français, alors là, on y serait encore. Et donc voilà, donc il y a une vision très noire, les années noires, on disait. Et puis les historiens ont continué leur travail, et ils se sont aperçus que c'est pas vrai, que c'était pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, ça, on le voit bien dans le livre, ils sont très très peu nombreux, ils font très peu de choses, en fait. Parce qu'ils ne font pas de sabotage, de choses comme ça. Pendant toute l'année 40, même une grande partie de l'année 41, il n'y a pas d'action militaire, pratiquement très peu. Ils sont dans le réarmement moral. Ça consiste à faire des tracts et à parler autour d'eux, mais à leur famille, à leurs voisins, etc. Et ils sont très très peu nombreux. Ça, c'est vrai. Mais quand on regarde, il y a des historiens qui ont travaillé sur l'opinion publique, sur les rapports des préfets, sur qu'est-ce que disaient les gens, qu'est-ce qu'on écrivait dans les journaux, même de manière, même si c'était contrôlé. Et on s'aperçoit que l'opinion évolue assez vite. C'est-à-dire qu'au début, le maréchal arrive dans sa gloire, hein, le vieillard qui a sauvé la France, tout ça. Tout le monde adhère, pratiquement tout le monde. Et puis, quand il va à Montoire, c'est en octobre, hein, 40, je crois, ou novembre, je sais plus. Mm-hmm. Novembre 40, hein. Quand il va à Montoire, ça fait très mauvais effet. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même le vainqueur de Verdun qui va serrer la main d'Hitler, là, ça va pas, quoi. Ça commence déjà, il y a une déchirure. Puis petit à petit, les combats, la guerre évolue, les Anglais résistent. Les gens se disent, bon, les Anglais résistaient quand même, ils ne sont pas effondrés. Et puis, c'est le maréchal est obligé de faire un discours, je crois que c'est en 41. Le discours du vent mauvais. Il y a un vent mauvais qui se lève, ça voulait dire les Français ne me croient plus, quoi. Ils m'écoutent moins qu'avant, en tout cas. Et puis après, il y a par exemple, quand il y a l'arrestation des familles juives, là, les gens sont choqués. Alors, ils ne sont pas comme Bernanos. Les nazis ont défiguré l'antisémitisme. Il y a des gens qui ont pensé ça. Ils disent, quand même, là, on va trop loin, quoi. Qu'on mette les juifs à part, c'est normal, disent les antisémites génocidaires, quoi. Mais qu'on arrête des familles entières, c'est pas possible. Ça. Et puis il y a Monseigneur Saliège, il y a des deux ou trois évêques, pas beaucoup, hein, mais il y en a deux ou trois qui protestent. Et puis l'opinion catholique, elle est partagée. C'est pas son truc, ça. Et donc l'opinion évolue. Et puis évidemment, avec Stalingrad, avec El Alamein, etc., les gens se disent, mais Hitler, et puis alors quand d'abord l'invasion de la Russie, les gens se disent, c'est Napoléon, donc il est foutu. Et puis alors, les Allemands, ils ont gagné pendant 2 ans, ils ont gagné toutes leurs batailles à l'Est, et puis à Stalingrad, ça se renverse. Et puis après, il y a d'autres batailles qui font que les Russes reviennent. Et là, les gens se disent, bon, ça y est, ils sont foutus. Et donc l'opinion bascule massivement du côté de la... des alliés, en tout cas. Sinon, pas du côté de la résistance, parce que les gens s'en méfient un peu. Mais, et puis le général de Gaulle, personne ne le connaissait, c'était une voix. Mais les Français n'ont pas... sont pas comportés de manière totalement indigne. Quoi. On ne peut pas dire ça. Et donc, ce message est dans le livre. Parce qu'on voit à la manière dont ils parlent de leur itinéraire, tous ces témoins qui sont des héros, enfin. On voit qu'ils portent en eux une idée de ce pays.
Une dernière question sur la composition de l'ouvrage. Hein, vous avez dit dans quel esprit familial vous aviez travaillé. Comment vous avez pu finalement faire le choix? C'est vraiment un choix de cœur, de sensibilité, ou est-ce que vous avez, il y a des subtils dosages entre les différentes composantes politiques? Est-ce que c'est le talent d'écriture des différents auteurs? Qu'est-ce qui explique ça? Et puis peut-être un mot des refus, parce qu'il y a eu apparemment quelques refus. Mais
alors, je ne sais pas tout là-dessus, c'est ma sœur qui sait ça. Ouais. Mais non, ça a été fait de manière croisée, c'est-à-dire qu'il fallait abordé les thèmes principaux que les historiens ont explorés. Donc, combien y avait-il de résistants au départ, quelle a été la force militaire de la résistance, quelles étaient les divisions, puis il y a des mystères, il y a des énigmes. L'énigme de Caluire autour de l'arrestation de Jean Moulin, l'effondrement du réseau Prosper, qui est un réseau anglais, organisé par les Anglais en France, avec des trahisons, avec des affaires d'espionnage très complexes, et puis l'affaire du Vercors, la main-d'œuvre immigrée, le groupe, ce qu'on appelle le groupe Manouchian, ce que les Allemands appelaient le groupe Manouchian, qui était une section du Parti communiste combattant, qui était composée d'immigrés, de juifs, d'arméniens et d'autres nationalités. Et certains ont dit qu'il a été trahi. Alors, certains ont même dit, Robrieux par exemple, a dit qu'il a été trahi par le PC lui-même, qui était gêné par le côté étranger de l'affaire, et qu'ils n'ont pas fait trop attention, et ils les ont laissés prendre par la Gestapo. C'est une accusation qui n'est pas du tout prouvée. Il y a des doutes, effectivement, il y a des problèmes, mais on n'a pas de preuve de ça. Donc il fallait choisir à chaque fois quelque chose qui soit représentatif des débats historiques qui ont tourné autour de la résistance et qui apportent l'éclairage vivant autour de ça. Par exemple, sur la France libre, il y a une anecdote qui vaut toutes les analyses. Il y a un bouquin de Crémieux Briac qui est formidable sur l'histoire de la France libre, qui sont donc les gens de Londres, les gens qui sont partis à Londres avec De Gaulle ou après De Gaulle. Il y a un témoignage de Rémy, parce que Rémy, donc c'est le colonel Rémy qui fonde la confrérie Notre-Dame, qui est un réseau d'espionnage principalement, un peu de sabotage, je crois, puis qui fait de la propagande, et qui part en Angleterre en bateau, puis il revient, il repart, etc. Et un jour, il a rendez-vous avec le général à Londres. Et il arrive en avance, alors il monte les escaliers, et puis on lui demande d'attendre devant l'entrée du bureau du général. Alors il attend, il fait les 100 pas, et puis il entend un bruit en bas de l'escalier, et il voit monter un type qui est voûté comme ça, avec sa main qui monte le long de la rampe, qui est crispée, qui s'accroche à la rampe, comme s'il allait comme un naufragé. Quoi. Et quelqu'un de manifestement accablé, avec un pas lourd et qui monte lentement, etc. Et il voit que c'est le général. Et immédiatement, il se dit, bon, ça ne doit pas aller bien, il doit y avoir des problèmes. Il y avait des problèmes, parce qu'ils étaient très peu nombreux, ils dépendaient entièrement des Anglais. Ils se battaient pour se faire reconnaître par Churchill et par les Américains, mais c'était épouvantable, moralement. Il fallait vraiment avoir un caractère comme celui de De Gaulle pour résister à ça. Et puis, donc, De Gaulle monte les marches, comme ça, lentement. Puis il voit Rémy. Il se redresse et c'est la France libre qui est debout. Quoi. L'anecdote en dit plus long quoi, sur la force de caractère du général, sur l'isolement des Français de Londres et sur la dureté du sort qui est fait à ces types qui sont une poignée et qui représentent un pays de 40 millions d'habitants, mais qui a dérivé bien, bien loin de ses propres buts et de ses propres valeurs.
Moi, je voudrais revenir sur un point, pas dans un souci de polémique, je sais que vous aimez le débat. Vous évoquez un certain nombre d'hommes de droite, en l'occurrence d'hommes de droite qui étaient très à droite, qui sont allés très tôt à Londres, Passy, Cordier par exemple. C'est en gros la même mouvance politique. Alors aujourd'hui, on sait qu'il n'y avait pas seulement ces gens de droite, voire de l'extrême droite, qui ont rallié très tôt le général de Gaulle et qui n'étaient pas si peu nombreux que cela. On sait aussi qu'il y avait... dans les cadres de l'État à Vichy, cadre de l'État dont vous avez bien fait de rappeler qu'il n'était plus républicain, c'est un fait, non contestable. Il y avait aussi des fonctionnaires, des militaires, des policiers également, qui étaient engagés dans un acte de résistance anti-allemande, notamment en zone dite libre et en zone également occupée. Alors, est-ce que, là aussi, dans les témoignages... par exemple, Freinet, il fait partie un peu de cela, ce qu'on a appelé des vichisto-résistants.
Oui, bon.
Alors, et aujourd'hui, c'est une catégorie assez bien reconnue dans les synthèses sur la résistance. Celle d'Olivier Vivorca, qui est venu présenter son livre ici il y a quelque temps. C'est la première fois qu'on a une histoire globale de la résistance qui montre les évolutions et de la mémoire et de l'histoire, où on reconnaît dans une histoire de la résistance que une infime partie des cadres de Vichy ont eu également une action résistante. Alors, est-ce que là-dessus, vous avez un jugement, un sentiment ? Est-ce que c'est par défaut de témoignage ? Parce que dans le même temps, votre présentation, elle est très éclectique. Hein. Il y a beaucoup d'hommes de gauche, mais il y a aussi des hommes de droite. Hein. C'est pas un mauvais procès que je vous fais.
Non, non, pas du tout. Non, mais je crois pas qu'on ait un témoignage de vichisto-résistant. Mais il n'y en a pas tellement. Mitterrand est le plus connu, finalement. Mais il faut comprendre. Il faut pas tout admettre, mais il faut comprendre. J'essaye de comprendre. Moi, j'y étais pas, donc on essaye de se projeter comme ça. Il y a ce que raconte Freinet, par exemple. Freinet, donc, c'est un homme de droite. Il n'est pas d'extrême droite, hein, je crois.
Mais, non, mais il est bien à droite.
Une bonne droite. Quoi. Et il rentre en résistance tout de suite. Donc, aucune hésitation, tout de suite. Mais en même temps, il garde des contacts avec ses amis. Je ne sais plus s'il est militaire ou pas. Enfin bon, il a des contacts avec Vichy. Même à un moment, il négocie avec Pucheux pour dire à Pucheux, qui était le ministre de l'Intérieur du Maréchal, il le connaît, il lui parle, et il lui dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous aider, plus ou moins, pour sécuriser un peu nos gens, etc. Et alors, ça lui a été beaucoup reproché après, par les autres résistants. Enfin, il a essayé ça. Alors qu'il est évidemment incontestable, c'est un des plus glorieux résistants de toute cette histoire. Et puis à un moment, il va voir sa mère. Il lui rend visite à sa mère dans le midi, je crois. Et sa mère comprend pendant la discussion, qu'il est en train de... d'œuvrer contre le maréchal. Et sa mère lui dit, si tu fais ça, je pense qu'elle lui dit, je te déshérite, quoi, ou je ne te reconnais plus, enfin, je te répudie. Parce que sa mère était maréchaliste totale, enfin, disciplinée, obéissant au maréchal. Et lui répond, si tu fais ça, je ne viendrai pas sur ton lit de mort. Un dialogue musclé, quoi. Et alors finalement, ça ne s'est pas produit. Non, elle a dit pire que ça. Elle a dit, si tu agis contre le maréchal, je te dénoncerai à la police. Et donc, il lui répond, je ne viendrai pas à ton chevet au jour de ta mort. Et bon, ça ne s'est pas produit, elle ne l'a pas dénoncé. Et lui, il a fait le parcours qu'on sait. Mais c'est pour faire comprendre que la figure de Pétain... qui, à mon avis, est horrible sur le plan politique. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. En plus, c'était vraiment un sale type. Quoi. Avec les Juifs, ça, il a été épouvantable. Quoi. Si au moins il était parti au bout d'un an ou deux ans, il était très content de la défaite des Allemands à Stalingrad, mais quand les Allemands sont arrivés, on lui a dit... je crois qu'il y avait un avion même qui était prêt à l'emmener en Algérie. Et puis, il est resté. Ce que De Gaulle avait prévu. De Gaulle avait dit, apparemment, on signe l'armistice, c'est l'ignominie, on tombera au plus bas. Il avait dit ça. Alors, il y avait un côté rhétorique de propagande, mais ça s'est vérifié. On commence à Montoire, on finit à Sigmaringen, comme disait un ministre du général. Et effectivement, ça s'est produit comme ça. Ils sont tombés de plus en plus bas. Quoi. Et Vichy est devenu une chose, à la fin, ridicule. Quoi. Au départ... Quand vous avez, je sais pas, vous êtes prof par exemple, tous les gens que vous respectez autour de vous, avec qui vous avez travaillé toute votre vie, ils vous disent, mais il faut obéir au maréchal. Le directeur d'école, le proviseur, le recteur, toute la profession. Quoi. Le maréchal a pris le pouvoir, il est incontestable le maréchal, c'est le vainqueur de Verdun. Il a descendu les Champs-Élysées sur son cheval blanc après avoir battu les Allemands. Alors, c'est ça, d'ailleurs, ça redouble... Aux yeux des résistants, ça redouble la trahison, puisqu'il a mis une gloire, un signe, au service d'une politique épouvantable. Les gens étaient pris par cette ambiance-là, d'une part. Et d'autre part, en 40, alors il y a les opportunistes qui se disent, de toute façon, les Allemands, ils ont gagné, donc il faut bien s'arranger avec eux. C'est pas très glorieux, mais enfin, ils ont pensé ça. Et puis d'autres qui disent, bon, l'armée de la France est battue, essayons de sauver l'essentiel... De limiter les dégâts, et puis attendons, on verra bien comment le vent tourne. Beaucoup de gens ont pensé ça. C'est humain. C'est difficile de juger les gens après coup. Oui, ils auraient dû faire ça, d'accord. C'est facile à dire. Hein. Et donc, il faut comprendre ça, cette complexité-là. Et le fait que ceux qui ont choisi d'entrer dans la clandestinité assez vite étaient, encore une fois, en 40, quelques centaines. Et De Gaulle, lui-même, quand il est parti à Londres, il s'attendait à voir arriver d'autres gens au service de qui il se serait mis. Et puis personne n'est venu. Il y a Muselier qui est venu, et puis Il y a ceux qui sont partis à Alger, et puis qui sont rentrés en France après pour certains. Et personne n'est venu à Londres. Il est resté tout seul. Alors, au bout de quelques semaines, il s'est dit, bon, ben, maintenant, c'est moi. Alors, la France libre, c'est moi. Mais pourquoi ? C'est parce qu'aucun des hauts dirigeants français qui étaient censés diriger le pays, l'incarner, le protéger, aucun n'a dit clairement, non, cette politique de collaboration est une mauvaise politique. Il faut rester aux côtés des Anglais, qui, eux, continuent de se battre. Personne n'a dit ça. Presque personne. Ah, le rôle des femmes. Alors, le rôle des femmes, je crois qu'il est marqué par l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui étaient chefs de réseau, il faut le reconnaître. La parité n'a pas été respectée. Par contre, il y en avait beaucoup dans la résistance. Il y en avait beaucoup. Elles étaient très courageuses. Mais alors, évidemment, c'était la mentalité de l'époque. Elles étaient plutôt affectées à des tâches moins nobles ou moins glorieuses, mais essentielles quand même. Mais souvent, elles étaient courriers. C'était quand même très dangereux. Et puis, il y en a eu des... Il y en a Brigitte Friand, elle s'est fait tirer dessus par la Gestapo. Bertie Albrecht, elle a été décapitée, je crois. Hein.
Oui.
Geneviève de Gaulle, elle s'en est tirée, mais elle a été arrêtée aussi, je crois. Hein. Enfin bon, il y en a beaucoup qui ont... C'était les mêmes risques. Hein. Les Allemands ne faisaient pas le... Ils n'étaient pas machistes pour ça. Hein. Les femmes ou hommes, c'était pareil. Là, hein. Ou la police française.
Est-ce que le romancier que vous êtes a trouvé aussi dans un certain nombre de ces témoignages, la presque totalité écrite après les faits, des bonheurs d'écriture ? Est-ce qu'il y a des écrivains parmi ces résistants ? Ou on est plus dans un registre factuel, mémoriel ?
Écrivain, c'est difficile à dire, franchement. C'est plus des témoignages. Ça se lit très bien, hein, c'est extrêmement vivant et plein de vie, plein d'anecdotes. Il y a plein de scènes formidables, et de dialogues, et des choses comme ça, qui seraient une matière de roman. J'ai pas vu de styliste, quoi. Vraiment, ça m'a pas semblé. J'essaye de repasser ça dans ma mémoire, mais... Il y a le type du SOE qui écrit pas mal, mais un peu apprêté, quand même, qui s'appelle Jacques Bureau. Il écrit plutôt bien, mais un peu trop bien, quoi. C'est un peu trop bien écrit. Mais un peu apprêté, comme ça. Et autrement, Daniel Meyer, Reski, les témoignages de Reski sont formidables. Ça, c'est vraiment très, très... Parce que, donc, lui, il est juif, communiste, et il fait partie des Moy, hein, je crois.
Oui.
Et donc, il raconte tout son parcours. Et il y a une scène incroyable, où qui est toute simple. C'est qu'il écoute la radio de Londres, et il entend les nouvelles de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et comme il est juif et résistant... ils sont pas nombreux, enfin il y en a, mais ils sont pas nombreux. Et il se dit, ben voilà, on dit toujours que les juifs se laissent faire, et ben au moins ceux-là, ils sont morts les armes à la main. C'est très émouvant, ce témoignage-là est très fort. Et puis il explique très bien l'itinéraire des communistes entre 40 et 41, c'est-à-dire jusqu'à l'opération Barbarossa, quand Hitler a attaqué l'armée rouge. On voit très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que le parti décide à une ligne attentiste et solidaire de la politique de Staline, au fond, de l'URSS. Les militants, eux, ils ne comprennent pas très bien. Enfin, ils sont disciplinés, ils appliquent, même très loin. Il y en a qui sont allés demander la réparation de l'humanité aux autorités allemandes. Ils font des tracts sur le thème non à la vie chère, alors que le pays est envahi. Enfin bon, c'est très... Même Guy Moquet, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film sur Guy Moquet. Qui a été diffusé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Guy Moquet est présenté comme un résistant, c'est un peu abusif. C'est un type courageux, c'est pas la question. Et il aurait vécu, il serait battu comme les autres, certainement avec beaucoup d'énergie et de courage. Mais enfin, les dates font qu'il a été arrêté avant, lui. Il est en train de distribuer des tracts pour soutenir les députés communistes qui avaient été invalidés. Non pas par les Allemands ou par Vichy, mais par la République, parce qu'ils n'étaient pas, parce qu'ils étaient considérés comme défaitistes et pas pro-allemands. Enfin, ils ne voulaient pas se battre. Quoi. Et Thorez est parti en URSS. Bon, tout ça est raconté très bien par Reski, et on voit bien cette sensibilité. Ils ont fait ça à contre-cœur, manifestement. Et l'attaque contre l'URSS a été une libération pour eux. Ils se sont dit bon. Là, on peut y aller.
Je voudrais revenir sur la figure du général de Gaulle. Là, vous avez évoqué ce beau portrait, un peu sépulcrale de Gaulle qui monte l'escalier, etc. Et puis, dans les échanges, il y a une image assez positive de celui que d'Asti appelait le symbole, c'est-à-dire l'homme qui a symbolisé la France, etc. Est-ce que dans les récits que vous publiez ou d'autres que vous auriez laissés de côté, il n'y a pas une image un peu plus nuancée, voire un peu critique de Gaulle ? À l'époque des faits, hein, je parle bien de la vision après-guerre que ces résistants ont pu avoir de Gaulle. Parce que, on le sait aujourd'hui, on le sait bien, voilà, l'aboutissement de la réunion du CNR en mai 1943, dont on fête le 70e anniversaire, c'est des conflits entre des mouvements politiques extrêmement forts, et puis c'est aussi des conflits à l'égard de du rôle dominant, en quelque sorte, organisateur que prend Moulin, représentant le général de Gaulle. Donc l'image de l'unanimisme tous gaulliste, n'est peut-être pas la réalité. Est-ce que vous avez eu une image comme ça, un peu dans ces témoignages très favorables à un De Gaulle symbole qui unit tout le monde, ou est-ce que il y a eu des images plus, des visions un peu plus nuancées?
Non, c'est beaucoup plus contrasté. Hein. C'est à la fin, oui, bien sûr. À la fin, évidemment, tout le monde, c'est l'homme du 18 juin. Mais pendant toute la guerre, d'abord au début, personne ne le connaît. Donc on se renseigne. Cordier, il raconte d'ailleurs, De Gaulle, il est de notre côté. Il voulait dire du côté de l'Action française. Il était saint-maurassien. Il est de chez nous. Et je ne crois pas qu'il était à l'Action française. Mais enfin, il avait certains éléments dans sa formation qui le rapprochaient de ça, mais il n'était pas à l'Action française. Et puis, on se méfiait d'un militaire, notamment les résistants de gauche. Je veux dire, une ganache qui va prendre la tête du truc, on a déjà le maréchal, ça va. Et puis, la France libre, pendant un an, je crois, ils ont refusé de reprendre la devise de la République. C'était salut et patrie, je crois.
Honneur et patrie.
Les Français parlent de français, etc. Mais il n'y avait jamais égalité, liberté, fraternité. C'est parce que ceux qui étaient à Londres se disait la République nous amenait là où nous sommes là, ce régime-là nous amenait à l'abîme. Et donc il faut trouver autre chose, trouver un autre régime. Ils n'avaient pas d'idée très précise. Et c'est seulement en 1941-1942 que De Gaulle finalement décide de reprendre à son compte, parce qu'il voit bien que les mouvements de résistance, eux, pour une partie en tout cas, ils sont très républicains. Je crois que c'est Pinault qui vient le voir à Londres. C'est Pinault, et qui veut lui faire signer une déclaration. De Gaulle ne veut pas signer, parce que c'est trop républicain comme langage. Ça a l'air d'exonérer, finalement, les idées de la Troisième République, dont il considérait, en partie à juste titre d'ailleurs, qu'elle avait conduit la France à l'abîme. Donc il voulait autre chose. Si on prend le cas de la figure de Brosselette, dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a un mouvement qui s'est créé autour de lui, de sa mémoire, pour le faire entrer au Panthéon, Brosselette, il avait une vision de l'après-guerre, alors qu'il n'a pas eu le temps de développer, parce qu'il a été arrêté entre-temps, et torturé, enfin, il s'est suicidé pour éviter de parler sur la torture, avenue Foch. Mais sa vision, elle, était... Il ne voulait pas des partis politiques. Il voulait une espèce de France unifiée autour d'un grand mouvement de la résistance, dont De Gaulle aurait été une espèce de caudillo, comme ça, pas exactement comme Franco, mais enfin, il y avait un côté un peu autoritaire, comme ça, un peu... Il fallait rompre avec le côté délétère de la corruption et de la division démocratique, quoi. Et ils voulaient un régime plus fort. Donc ils étaient les résistants se méfiaient de De Gaulle. Ceux qui étaient républicains se disaient mais on va remplacer une dictature par une autre après la guerre. Donc alors, après il y a eu ces discussions, il y a eu cette négociation avec Pinault qui représentait les mouvements, je crois, et les syndicats aussi. Pinault, il était socialiste. Il était socialiste et il était de la CGT, non ? Non, socialiste.
Frange minoritaire de la CGT.
Oui, c'est ça. Et donc, ils apportent la déclaration à De Gaulle. De Gaulle ne veut pas signer. Pinault repart dépité. Il monte dans l'avion. Et puis, il y a un messager qui arrive au dernier moment qui dit « ça y est, il a signé ». Il repart avec le document signé par De Gaulle, qui rallie entièrement la France libre à une France démocratique, droits de l'homme, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît sur ce qu'a été ensuite l'idéologie du Conseil national de la résistance. Mais il y avait ça. Et puis, il y avait aussi l'idée que des gens comme Dastier, comme Freinet, etc., considéraient qu'il ne fallait pas se ranger sans rien discuter, sans rien négocier, sous la bannière du général, Parce que, après tout, la résistance intérieure avait joué un rôle très important. Donc, ils ne voulaient pas perdre leur autonomie, leur indépendance. Ils voulaient rester une force autonome jusqu'à la libération, pour défendre leurs propres idées. Et puis, et c'est Moulin qui a fini en réussi, par des pressions, en négociant, et parce qu'il avait l'argent aussi, qui a réussi à les convaincre de s'unifier. Mais ça a été très difficile, c'était très violent. Les discussions politiques étaient extrêmement violentes. Et donc, le rapport à De Gaulle n'était pas facile. Et si on prend le cas de Mitterrand, parce qu'il faut revenir sur le cas de Mitterrand. Mitterrand, il est à Vichy en 41, jusqu'en 43. Mais il est adhérent d'un mouvement de prisonniers avec un type qui s'appelle Pinault, pas Pinault Christian, un autre. Et ce Pinault est maréchaliste, mais un peu dissident. Et puis ce Pinault est ensuite démis par le maréchal, il me semble. Et là, Mitterrand, qui déjà considérait que ce Vichy, c'était un peu, comme il disait, une pétrolière, c'était un peu bizarre. Il n'était pas très à l'aise à la fin. Au début, comme il venait de l'extrême droite, il n'était pas extrême droite, mais enfin, il était quand même très nationaliste. Quoi. Il venait de la droite nationaliste. Et il venait de là. Quoi. Et c'est pour ça qu'il va à Vichy, ça lui est naturel. Mais il s'est quand même évadé 3 fois. Il faut voir le caractère aussi. Le caractère joue beaucoup. La plupart des prisonniers, ils sont restés prisonniers toute la guerre.
Bien, merci beaucoup. Nous devons malheureusement nous séparer. Merci à notre invité de ce soir.